Cette histoire, c'est Gilles Schneider, ancien directeur des antennes d'RFI, ancien rédacteur en chef d'Europe 1 également, qui nous la raconte ce matin. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Il y a 50 ans, vous étiez grand reporter. Hein, vous avez été le témoin de ce printemps de Prague, de sa répression par l'armée rouge, les troupes du pacte de Varsovie. On sentait un vent de liberté voler sur l'Europe en 68. On le sentait souffler en Tchécoslovaquie aussi.
Oui, absolument. Vous savez, c'était en 68, il y a un vent de liberté et une revendication de la parole. Je me souviens, par exemple, en mai 68 à Paris, de ce slogan « Les murs ont la parole » avec tous les slogans qui étaient écrits sur les murs pendant les événements de mai. Et cette volonté de liberté d'expression, de la parole, de liberté sociétale, etc., on la retrouve non seulement en Occident, on l'a trouvé, il y a eu des manifestations, je vous l'ai dit, on le sait, à Paris en mai 68, mais aussi à Berlin, à Mexico, à Los Angeles, un peu partout. Mais il y en a eu aussi derrière ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer. Et évidemment, c'est pas né. Autant nous, on a été un peu surpris par ces événements, autant dans les pays de l'Est, les choses sont montées petit à petit dans la foulée d'ailleurs de la répression hongroise en 56. Depuis, ça a toujours un petit peu bougé progressivement. Et dès les années 60, Alexandre Dubček, dont vous parlez, avec l'économiste Otachik, avait déjà des idées sur le plan de l'économie, une volonté de décentraliser un peu l'économie, de la changer, un peu comme ce qu'avait fait Lénine en 1921 quand il a vu que ça ne fonctionnait pas. Eh bien, les Tchécoslovaques l'ont fait en 67, au 13e congrès du Parti communiste, sous Novotny, qui lui était un stalinien pur dur, pur jus. Mais ce plan n'a pas vraiment été mis en application. Et il est, comme ça ne fonctionnait toujours pas, Novotny avait demandé aux Russes une première fois, sans que personne d'ailleurs ne le sache, d'intervenir dans les années 67, ce que les Russes n'ont pas fait. Et voyant que ça ne fonctionnait pas, Brejnev est venu à Prague et il a décidé qu'on allait changer de premier secrétaire. Et alors on a mis à ce moment-là, puisqu'il avait ces idées qui correspondaient économiquement, en gros, avec les réformes souhaitées par le 13e congrès, on a mis Alexandre Dubček, premier secrétaire, qui à l'époque, ça se passe en 68, le 5 janvier 68, et Dubček à l'époque est premier secrétaire du parti slovaque. C'est un homme, il a 47 ans, c'est un homme qui a eu un parcours un peu d'apparatchik, avec des idées plus libérales évidemment que Novotny et le noyau dur. C'est un homme, un humaniste, il a un aspect très doux, c'est quelqu'un qui semble un peu fragile, voyez-vous, par rapport à un Brejnev, d'ailleurs on le verra dans les discussions qu'ils auront plus tard pendant le printemps.
Et,
oui.
Et Gilles, cet homme que vous décrivez, est-ce que, parce qu'à l'époque, il y a 50 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on imagine bien, vous le racontez, c'était derrière le rideau de fer, c'était, on vivait accroché à son transistor. Est-ce que on sentait déjà que c'était là que les événements allaient se passer? Comment est-ce que vous avez décidé de partir couvrir ce printemps de Prague?
Alors, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est mon directeur de rédaction qui s'appelait à l'époque Jean Gorini qui m'a envoyé là-bas. J'y suis allé fin juin, je suis resté pratiquement non-stop en Tchécoslovaquie de la fin juin 68 jusqu'à l'immolation de Jan Palach en janvier 69. Après, je lui suis retourné, mais c'était extrêmement difficile de travailler quand le printemps de Prague s'est terminé et que Uzak a succédé à Dubček. Mais revenons, si vous voulez, sur cette période. On a compris qu'il y aurait un problème inévitable entre le printemps de Prague, le socialisme à visage humain, et la direction du Parti communiste soviétique. D'ailleurs, rien que les hommes, si vous voulez, vous mettez Brejnev face à Dubček, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui va pas. Surtout que le socialisme à visage humain, outre les progrès de décentralisation économique dont je vous parlais tout à l'heure, prône essentiellement la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté de circulation, on peut se balader dans tout le pays, on peut sortir du pays sans problème, on peut dire dans la rue ce qu'on pense, on peut écrire ce qu'on pense. Imaginez dans le contexte à l'époque pour les soviétiques, c'est quelque chose d'impensable. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que les premiers problèmes vont se poser. Hein, il y a le printemps de Prague, il voit dès l'année 68, quelque temps après l'installation de Dubček et l'élaboration du printemps de Prague, eh bien, il y a en avril une convocation des Tchèques par les pays frères et par les Russes à Dresde. Et là, on commence à leur faire les gros yeux, parce que c'est pas du tout... Brejnev voulait bien un petit peu de ripollinage ici ou là, mais il voulait pas... Pour lui, c'est une véritable révolution, et il craint que la Tchécoslovaquie passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté hors du pacte de Varsovie, ça va jusque-là.
Hein. Et face contagion, il y a eu, vous parliez de la liberté de la presse, il y a des grands dissidents qui ont été moteurs hein, dans cette fin de censure. Est-ce que vous aviez rencontré les écrivains, Milan Kundera, Václav Havel à l'époque quand vous
étiez... quand je suis pendant cette période, ils étaient très actifs. Hein, Vatchouli, Kundera, tous ces hommes avaient une énorme importance. Oui, je vous ai parlé des aspects politiques, mais aussi tout cette... Il y avait l'économiste Otachik, il y avait tous les intellectuels, et il y avait le peuple qui attendait ça. Moi, je me souviens, ma première image, quand je suis arrivé en juin à Prague, c'était pendant les accords de Tchernia, c'est-à-dire qu'après Dresde, les gros yeux de Dresde, il y a eu une tentative de négociation à la frontière tchécoslovaque, russo-tchécoslovaque, dans un wagon entre Brejnev et Dubček. Ça avait été extrêmement virulent. On dit même que Dubček, à ce moment-là, aurait eu un malaise parce que Brejnev tapait avec sa bouteille de bière sur la table et hurlait littéralement. Vous voyez, c'est le style de dialogue qu'il pouvait y avoir. Et effectivement, le peuple, dans les rues de Prague, vous aviez des tables installées, tenues par une personne, des queues, des files d'attente énormes, et les gens venaient pour signer un papier dans lequel ils donnaient leur accord à toutes les réformes. Voyez-vous, c'était assez extraordinaire ce qui se passait là. Et bien sûr, les Russes trouvaient que pour eux, c'était impensable, quoi.
C'est l'image qui reste pour vous aujourd'hui. Si une seule image devait rester très rapidement, Gilles Schneider, ce serait cette image-là de ces Tchèques.
Non, c'est une image que j'ai vécue dans le château de Prague où j'avais pu rentrer, qui était l'Élysée tchécoslovaque. Pendant l'intervention, par le hasard, j'ai pu rentrer dans ce château. Bon, je vous le fais très court. Je suis tombé sur une secrétaire qui parlait français, qui m'a dit de m'installer sur une chaise. Et alors que tous les dirigeants, Dubček, Tchernik, Smirkovski, Kriegel et tout ça, avaient été arrêtés, tout d'un coup, elle me dit « Regardez bien cette porte ». Bon, tout d'un coup, la porte s'ouvre et qu'est-ce que je vois arriver ? Avec des barbes de 3 jours, plus de cravate, enfin comme des détenus, je vois Dubček, Tchernik, tous les héros du printemps de Prague qui venaient d'être libérés. C'était quelque chose pour moi d'extraordinaire. Je les avais sous les yeux, à 3 mètres de moi, et ces hommes venaient d'être libérés grâce à un entretien entre Svoboda et Brejnev. Mais c'est une libération qui a coûté cher aussi, puisqu'en contrepartie, les Russes ont repris le pays en main.
Gilles Schneider, ancien directeur des antennes d'RFI, grand reporter à l'époque du printemps de Prague.